Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview,
agenda,
musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.
Nous allons maintenant passer au dernier sujet de cette émission, donc avec Christophe qui nous propose un sujet sur l'évolution de l'alimentation humaine au cours de l'histoire. Alors l'alimentation, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, Christophe. On l'a vu dans la dernière émission, on a parlé aussi pas mal d'alimentation. Mm-hmm. Donc alors pourquoi ce sujet sur l'évolution au cours du temps de notre alimentation?
Ça me semble être une évidence. L'alimentation, ça parle à tout le monde. Demande à Norbert si l'alimentation, ça lui parle pas.
Tout à fait. Ouais, ouais. Oui, c'est tous les jours. C'est le matin, le midi, le soir, l'encal. Oui, donc oui, comme moi, je suis sur les marchés. Effectivement, les gens vont beaucoup sur les stands alimentaires.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est un petit peu le. Oui, ça me semble être une évidence. Après. Si on prend un petit peu de recul, regarde, l'alimentation est au centre de la préoccupation du vivant. Les bactéries, entre elles, elles se mangent, donc elles sont en permanence en interaction. Les champignons, c'est la même chose. Les végétaux, pareil, il faut que ça mange. Les mammifères, donc nous, on est tous concernés.
Bah, tout le monde mange et est mangé.
Oui, c'est ça.
Moment, on
exactement.
Finit par être mangé.
Oui, tous les êtres vivants sont en interaction les uns avec les autres.
Complètement. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de prendre un petit peu de recul et de voir un peu chronologiquement d'où on vient. Parce que bon, on voit bien qui nous sommes actuellement, on a un petit peu une idée, mais on sait peut-être pas d'où on vient. Donc ça serait essayer de faire une petite introduction à justement voilà faire un petit historique. Voilà.
Alors on part de, tu veux partir donc de début de l'humanité.
Oui, ça serait pas la cuisse de Jupiter, non?
Non.
Non. Elle doit être bonne quand même.
Encore avant, encore avant. Non, ouais. non.
C'était encore avant.
Ouais.
C'était l'aile alors.
Non, ça reste de l'idéologie. Là, on va essayer de passer. À des choses, on va essayer de retracer un petit peu le parcours du concret, du vrai quoi. On va tenter parce que ça reste encore des suppositions et tout ça, mais on va essayer de faire un petit peu le chemin ensemble. Chaque organisme vivant a une histoire. Bon, il a évolué au fil du temps. Son évolution est intimement liée à son environnement. Donc ça reste une thèse évolutionniste darwinienne. Ma démarche a été de suivre l'homme et son régime alimentaire tout au long de son évolution. Donc le premier organisme vivant apparaît aux alentours de 3,5 milliards d'années, donc c'est pas tout près, suivi d'autres formes de vie, puis vint les premiers mammifères. Bon, il a bien fallu qu'il y ait une coévolution avec le règne végétal, car sans nourriture, pas d'évolution et extinction de l'espèce. Puis aux alentours de 60 millions d'années avant Jésus-Christ, certains mammifères, dont le gorille, le bonobo, l'orang-outan, le chimpanzé et l'humain, ils ont tous été classés faisant partie d'un groupe appelé les hominoïdes. Chaque lignée de ce groupe a évolué de manière différente. C'est situé géographiquement au niveau de la vallée du Rift, à l'est de l'Afrique. L'homo, donc qui est l'ancêtre de l'homme, on va l'appeler l'homo, a évolué vers la bipédie. Lui de son côté, ça a été son évolution. Les autres, c'est pas qu'ils n'ont pas évolué, c'est qu'ils ont évolué chacun de leur chemin. Ils ont tous eu leur chemin respectif. Son régime alimentaire reste très proche des chimpanzés et des bonobos. Bon, après, il faut attendre 50 millions d'années. Aux alentours de 8 millions d'années avant Jésus-Christ, date à laquelle l'humain se différencie des grands singes par son attitude justement à se tenir debout, donc la bipédie. Et on a retrouvé donc des squelettes, donc le fameux prénommé Toumaï. Pour être plus précis, il n'y a pas eu qu'une espèce d'homme. C'est là où ça peut un petit peu perturber. Il y a eu des hommes. Ces espèces ont donc évolué à leur, à, dans leur milieu, leur environnement. Deux ont pu être répertoriés, mais aucun doute qu'il y ait eu d'autres espèces, bien plus que deux. Hein. Les deux espèces répertoriées, c'est Néandertal et Cro-Magnon. Ces deux espèces ont vécu ensemble pendant 1 million d'années, puis Néandertal s'est éteint. Bon, revenons un peu plus à l'alimentation. Là, c'était un peu pour placer un petit peu l'homme dans ses débuts.
Oui, alors qu'est-ce qu'il mangeait, tout ce petit monde-là?
Justement, c'est que il y a eu une grosse révolution. La première des grandes révolutions, ça a été le feu. Parce que, justement, le passage d'une alimentation entièrement crue à une alimentation au moins en partie cuite a sans doute eu des répercussions importantes sur l'organisme.
Alors, avant de passer au feu, qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce que mangeaient ces grands singes ou ces premiers hommes?
Eh bien, des feuilles, des fruits, des racines, des larves, des insectes, tout ça. Du gibier. Bon, il est omnivore, hein, l'homme est omnivore, et il trouvait ce qu'il avait sous la main.
C'était un opportuniste, charognard, peut-être.
Oui, pourquoi pas. Chasseur-cueilleur, il vagabondait, en tout cas, il allait chercher la nourriture où elle se trouvait. Et donc, il changeait d'endroit. Quand la source était tarie, quand il n'y avait plus de nourriture, eh bien, évidemment, il partait un petit peu plus loin. Mais donc, il était nomade.
Est-ce qu'il attendait qu'il n'y avait plus de nourriture pour bouger ou c'est
non,
les
non,
réserves
non.
diminuant
ah, alors ça,
poussait.
On n'a pas réussi malheureusement à... Il y a déjà beaucoup de mystères quant à l'apparition de l'homme et tout ça, donc on n'a pas assez d'éléments pour nous dire si effectivement il se gardait un petit quelque chose ou alors il laissait un petit quelque chose pour les autres, les animaux, pour etc., s'il avait cette pensée-là. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Il avait, il pensait déjà, je pense, à lui, pensait à manger... Parce que la nourriture, ça devait pas être très évident non plus. C'était pas ce qu'il y avait de plus goûteux, j'imagine. Mais enfin, en tout cas, il était habitué à ça. Et en fait, voilà. Donc, je reviens au feu, c'est que le passage donc du cru au cuit, ça a été quelque chose d'important, de très important. Beaucoup de personnes pensent que justement les apports caloriques qui sont liés à la cuisson, parce que la cuisson en fait permet entre autres à un même aliment d'être beaucoup plus calorique. Donc les apports caloriques permettant le développement d'un tissu cérébral gourmand en énergie, le cerveau. Pour information, le cerveau consomme entre 20 à 25% de notre métabolisme. Et chez l'enfant, entre 50 et 60%. Donc c'est une part très importante. Toutes ces calories doivent aller au cerveau. Et dans les légumes, les petites larves, etc., peu de calories. Donc le feu a permis certainement, ça reste encore une supposition, mais on a quand même des pistes, que en fait cela a sans doute été un facteur important pour l'évolution de notre cerveau. Alors là.
Donc le feu, il y a 1,4.
Oui, 1,4
million d'années.
D'années, exact, tout à fait. Alors ensuite, là, il y a eu encore une révolution, la deuxième très grande révolution, et celle-ci, elle a été de taille, en tout cas pour notre physiologie, pour notre évolution.
Alors, qu'est-ce que c'est là autour de la table? Vous avez une idée? Benjamin.
Oh. Rien de...
C'était quand?
Qu'est-ce que tu apprends à l'école?
C'est 10 000 ans avant Jésus-Christ.
C'est certainement l'agriculture.
Hein. Ouais, oui.
Il a arrêté de bouger.
Il s'est dit, est devenu sédentaire.
Je suis bien ici.
Il a commencé à planter. Quoi,
ouais, exact. En fait. Tout à fait. L'agriculture, c'est cette révolution qu'est l'agriculture, est très récente. Pour exemple, prenons le cadran d'une montre, la vie apparaît sur Terre à l'heure zéro. Et au moment où je parle, les aiguilles indiquent 24 heures. Sur ces 24 heures, l'agriculture apparaît pendant la dernière seconde de ces 24 heures. C'est pour comprendre que l'agriculture, elle a un impact, mais il est tout récent l'impact sur nous, sur notre évolution. Donc avant, on a consommé une alimentation où il n'y avait pas d'agriculture. Ça, c'est assez important de se l'imaginer.
Est-ce qu'il y a une différence entre une agriculture sédentaire et une agriculture mobile? Parce que
complètement.
Il y a quand même des peuples, on sait qu'il y a des peuples qui ont... utiliser l'agriculture de façon mobile, en ne se sédentarisant pas, quoi.
Ouais. Après, ça restera certainement. Enfin, les nomades qui justement avaient des petits bouts de forêt, des petites parcelles pour pouvoir bouger de temps en temps et retrouver de la nourriture. Je pense qu'ils comptaient beaucoup sur tout ce qui est plantes pérennes. Donc, à ce moment-là, ben là, vous voyez le jardinier Nanda. Ses salades, il les protège plus que tout. La moindre bestiole qui vient, la moindre limace, la moindre bactérie, le moindre champignon. Va lui mettre sa récolte, l'amener sa récolte à néant. Je pense que même si ils avaient des jardins justement où ils venaient tous les 6 mois, tous les 3 mois, etc., ils revenaient. Ça devait être quand même des plantes pérennes et ils avaient certainement cette science justement de s'alimenter avec ces plantes sauvages qui devaient voilà mettre là à cet endroit-là des fruits. Et,
donc, je pensais peut-être aux nomades avec des troupeaux, non?
Oui, entre autres.
Le
chasseur-cueilleur aussi.
Ce qui existe encore, hein, ou qui existait encore il y a peu de temps, hein, que ce soit les Touaregs ou les Mongols, qui se déplaçaient avec les troupeaux. Quoi.
Ouais.
Dans la forêt amazonienne, il y en a aussi qui se déplacent, qui ont en fait un circuit et qui replantent à chaque fois sur les bords de leur circuit ce qu'ils mangent et réimplantent des fruitiers et d'autres graines en fait.
Mais voilà, donc cette implantation, je pense qu'elle est, elle doit être faite, on doit certainement y mettre des plantes quand même assez assez solides, quoi, assez pérennes, et voilà, parce que c'est vrai que les prédateurs et tout ça. Donc moi je reste quand même sur l'idée que juste avant l'agriculture, on devait quand même manger des choses qui étaient
très peu domestiquées,
oui, tout à fait. Et donc bon, jusque là l'homme s'était enfin nourri des cadeaux que lui offrait la nature. L'homme était un chasseur-cueilleur nomade, voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure, dont la nourriture était faite de baies, de larves, etc., etc., etc. Des graines sauvages, des feuilles, donc j'ai oublié tout à l'heure, voilà, des pousses, etc. Et on pourrait croire qu'en se sédentarisant, ben, l'homme primitif avait mis forcément un pied dans un processus qui allait le conduire à améliorer son existence. C'était un peu le chemin à prendre, quoi.
Avoir de la nourriture plus facile d'accès, en abondance.
Eh ben, je pense que non. Or que ça pouvait être idéologique, c'est certain. C'est-à-dire qu'on pouvait se garder son petit précaré, on pouvait cultiver, on avait ça à côté, ça rassurait, mais c'était sans compter les intempéries, c'était sans compter les gens qui allaient voler, piller ces choses-là. Donc,
voilà, ça a été le début de la propriété aussi, justement, parce que là, le rapport à la nourriture, c'est ma nourriture, c'est pas la nourriture de tous aussi.
Tout à fait. Et donc là, que ce soit sur le plan social, économique ou alimentaire, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Au contraire du chasseur-cueilleur du Mésolithique, l'agriculteur, éleveur, dut en fait réduire considérablement la variété de son alimentation. Car seuls quelques rares animaux se prêtaient à la domestication et à l'élevage. Et même pour les végétaux, cette véritable révolution ne fut pas sans conséquence sur la santé. Le monophagisme, qui résultait des monocultures de l'époque...
Le monophagisme, c'est manger la même chose.
C'est en fait consommer toujours des produits, les mêmes produits. On mange toujours monophage, manger une variété. Donc,
du pain, de la semoule et des pâtes.
Mono, top, même pas. voilà, c'est ça, exact. Et donc, bah, tout ça résultait donc des monocultures. Tout ça, c'était quand même source importante de carences. Bon, ça se traduisit par une diminution notable de l'espérance de vie, pardon, des populations. Et bon, il y a quelques chiffres qui sont quand même assez représentatifs. Peu avant les débuts de l'agriculture, la taille moyenne pour un homme était de 1m80. Contre 1m60 pour un homme après l'avènement de l'agriculture. L'espérance de vie moyenne est de 38 ans avant et 19 ans après. On voit bien que l'agriculture, au départ en tout cas, a
affaibli.
Ah ouais, sacrément pas qu'un peu.
Oui, puisque là, donc dans cette question, c'est donc les chasseurs-cueilleurs donc étaient bien mieux nourris que donc ces paysans, et pourtant ils n'ont pas résisté eux. À la suite de l'histoire, quoi. Ce sont quand même les agriculteurs, disons les paysans, qui ont pris le dessus, alors que les autres étaient beaucoup plus forts physiquement qu'eux.
Ouais, mais
c'est étonnant.
Oui et non, parce que en fait, là, on parle de l'alimentation, mais au niveau social, l'agriculture a eu un poids. Ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, l'agriculture. Et donc, c'est pas impossible que l'agriculture étant mise en place, la société a changé. Je vais te donner quelques exemples. Parce que, bon, en fait, j'aimerais mettre en lumière le rôle de l'agriculture dans nos sociétés. L'agriculture a amené les guerres. L'accumulation des récoltes attise la convoitise d'autres groupes humains. La surpopulation, parce que la sédentarisation autorise les femmes à avoir de nombreux enfants, que la production agricole peut nourrir. Ça a amené, donc l'agriculture, tout ça, hein, ça a amené les famines. Lorsque les conditions climatiques sont néfastes ou que surviennent, lorsque survient une guerre, production de nourriture fragile, enfin, lorsqu'ils produisent de la nourriture, ça a été domestiqué.
C'est-à-dire donc, le résultat des récoltes,
plus fragile,
est devenu un facteur limitant à un moment donné. Quoi.
Tout à fait.
La nature était abondante et par contre les récoltes, suivant les aléas climatiques, peut entraîner à un moment une
tout
carence,
à fait.
Quoi,
tout à fait.
Une disette. Et,
c'est ça.
Famine.
Donc encore un problème social. Donc pourquoi est-ce que les chasseurs-cueilleurs ont été évincés? Peut-être que, hein, je sais pas. C'est pas fini. L'esclavage de masse, l'agriculture se révéla beaucoup plus pénible en termes d'efforts physiques que la chasse et la cueillette.
Oui, ils devaient consacrer plus de temps que les chasseurs-cueilleurs.
Complètement. Ça a amené des épidémies, parce que la concentration de la population dans les villes est une aubaine pour les microbes.
Donc c'est la création des villes aussi.
La création des villes, mais elle pouvait être possible que parce qu'on avait mis en place une agriculture et que les gens étaient sédentaires.
La spécialisation des gens qui produisent et des gens qui consomment.
Tout à fait.
On a quelques pistes par rapport aux épidémies et l'élevage notamment.
Oui.
Où d'accord. L'élevage concentré, sédentarisé, avec beaucoup de monde, a apporté des maladies qui ont fait que il y a eu des énormes pertes humaines au début de l'élevage.
D'ailleurs, à ce propos, sur cette étape un peu transitoire, il y a un très joli livre écrit par une auteure locale, c'est Nat Renard. Ce livre, ça s'appelle « À l'autre bout du rêve ». Et c'est vraiment un très beau bouquin qu'on a à la bibliothèque de l'association Vivre en Comminges et que vous pourrez retrouver localement dans les librairies locales, il est disponible. Et c'est l'histoire de peuple, enfin d'une famille nomade et qui justement se retrouve questionnée par le nomadisme.
Bien. Et pareil, encore un grief, on va dire, de l'agriculture, c'est que les déserts écologiques, les déserts, pour exemple, le croissant fertile au Moyen-Orient, il a été nommé le croissant fertile. Tenter d'aller au Moyen-Orient actuellement, c'est un désert. On a créé des déserts. L'homme est quand même... bon, il a créé des déserts parce qu'il a eu besoin de bois, et les Romains ont construit, etc. Bon, tout ça. Mais l'agriculture a aussi créé des déserts, donc le croissant fertile, et aussi dans le Middle West, qui était le cœur agricole des États-Unis, avec ces Dust Bowl, qui sont des tempêtes de poussière.
Parce donc là, c'est un exemple très très récent, hein.
c'est le
début du XXe siècle, dans les années 30.
C'est ça.
Donc c'est une érosion massive due à la déforestation et à l'agriculture
intensive, aux
charrues qui ont provoqué des catastrophes écologiques. Donc, sur une dizaine d'années, il y a eu des grosses problématiques. On peut penser aussi aux Romains,
à
tout le bassin méditerranéen, toute la Méditerranée, le sud-est par exemple, avant, ou la Grèce, ou certaines parties de l'Italie, c'était des régions fertiles.
L'Espagne aussi, d'ailleurs.
L'Espagne. La Méditerranée était fertile sur cette côte.
Parenthèse terminée pour le côté social, mais voilà, ça ne répondait pas complètement à ta question, mais voilà, l'agriculture n'a pas été que un problème alimentaire, ça a été aussi un problème social. Ça a mis en place une économie qui n'était pas la même avant. Donc tout notre monde a été bouleversé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en tête, la deuxième révolution, parce que ça a une importance, mais énorme sur la suite, on va dire.
Oui, oui.
Et alors avant, on a vu, hein, 1m80 contre 1m60 et des poussières, bon, etc.
L'espérance de vie aussi par rapport à la médecine. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aussi, c'est est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec une agriculture conventionnelle, si on n'avait pas la médecine, est-ce que notre espérance de vie ne serait pas beaucoup, beaucoup moindre?
Il y a aux États-Unis, par exemple, l'espérance de vie diminue. depuis plusieurs années, quoi. Il y a la 60 ou 70%, plus de 70% de la population qui est obèse ou en surpoids et qui a des problèmes
cardiaques.
Oui, il y a de gros problèmes de santé publique. En France, on est autour de 50%, mais ça pose une problématique.
Non, après, enfin, je pense que la médecine a fait de gros progrès parce que on a la capacité de tenir en vie quelqu'un qui est moyennement portant ou pas bien portant.
Mal portant.
Ouais. Et donc, on essaye tant bien que mal de l'amener le plus loin possible. Donc, ça, pour ça, je pense qu'ils sont assez forts. Enfin, nous sommes assez forts pour avoir mis ça en place. On a fait aussi de belles. Enfin, on a fait de. Pour rester positif, on a fait quand même de belles découvertes. Qui ont permis justement à ce qu'on puisse vivre plus vieux. Par contre, ce qui est vraiment à remettre en question, je pense, c'est vraiment l'alimentation. Après, on entend des publicitaires nous parler de qui mettent des vitamines, qui mettent des machins, des trucs dans les produits. Bon, mais ça, c'est un argument de publicitaire. C'est pour ça que le contenu un petit peu de ce que je voulais, de ce dont je voulais aborder, c'était que essayant de voir ce qui a été avant, de la manière dont on vivait, et voyons par la suite. Donc là, bon voilà, ce que j'aimerais faire, c'est balayer un peu chronologiquement les périodes clés de notre civilisation. Bon, c'est à titre un petit peu d'exemple, je vais peut-être pas m'étendre dessus, mais à l'époque de l'Égypte ancienne, il y avait, ils avaient tous un mode alimentaire, donc là, ils avaient à leur disposition un éventail assez important de denrées, mais uniquement accessible à une classe sociale élevée. Donc le peuple, une très grande majorité de la population, consommait des céréales, des légumes et des légumineuses. Donc là, l'agriculture est bien arrivée, parce que justement, céréales, légumes, légumineuses. Et donc les Égyptiens, c'était un petit peu leur mode alimentaire. Ensuite, après je ferai une synthèse de tout ça, mais les Grecs, le monde grec, hein, dans sa globalité, ils mangeaient des céréales, enfin les céréales fournissaient au moins 80% des apports énergétiques totaux. Les Grecs avaient le sentiment qu'en élaborant eux-mêmes leur alimentation, à travers l'agriculture, ils élevaient leurs conditions humaines. Donc ça restait encore assez théorique. La conviction d'être un homme civilisé les réconfortait. Donc ils consommaient le pain de blé, la soupe de légumes, la bouillie de céréales grossières, les légumes secs faisaient l'ordinaire journalier du peuple. Chez les Romains, le rôle de la viande est plus important. L'élevage des porcs hérité des Étrusques. Les Romains du peuple ne consomment finalement que du porc, de la volaille, du fromage et parfois du poisson. Bon, ils se nourrissaient abondamment de légumes, principalement du chou et de quelques céréales grossières. Ensuite vient le Haut Moyen-Âge, compris entre 500 et 1000 après Jésus-Christ, pardon. Et alors là, ça a été quand même assez important. Donc, tout d'abord, ils ont été influencés par les Romains. Donc, les Romains colonisant les régions méditerranéennes et européennes, dont les habitants étaient pour eux des barbares, les Romains n'avaient de cesse que de transmettre aux populations conquises leur idéologie alimentaire. Les deux civilisations, donc les Romains et les dits barbares, s'opposaient en effet totalement sur ce plan-là. Pour faire simple, il y avait d'un côté celle de la viande, du lait et du beurre, de l'autre celle du pain, du vin et de l'huile. Le mythe de l'agriculture et de la ville se heurtait farouchement à celui des forêts et des villages. Ce choc des cultures a connu ce qui semble être l'âge d'or de l'alimentation, depuis les débuts de l'agriculture.
Donc au Moyen-Âge, entre 500 et 1000 après Jésus-Christ.
C'est ça. En fait, c'est l'époque du Moyen-Âge. Donc pendant cette période, émergeait ce système qui est appelé l'agro-silvo-pastoral, fournissant ainsi aux populations concernées une alimentation très diversifiée.
Donc c'est des paysages de champs cultivés, de forêts et de prairies, d'élevage.
C'est ça. Donc on récupère tout, on récupère quelques champs cultivés, on récupère une alimentation qui est issue de la forêt, qui est en lisière de forêt. On récupère aussi du gibier qui est présent. et des animaux qui sont domestiqués. Donc là, c'est, on a vraiment un petit peu tout.
On peut imaginer que c'est un système avec beaucoup de biodiversité.
C'est ça.
Avec ces différents milieux et les interfaces entre ces différents milieux, les lisières.
Tout à fait. Il ne semble donc pas que le haut Moyen-Âge ait connu des maladies de carence ou de malnutrition, comme il en a existé depuis le début de l'agriculture. Et jusqu'à nos jours, hein, évidemment. À cette époque, chose importante, c'est qu'à cette époque, les individus étaient conscients que l'alimentation est un moyen d'assurer la conservation de la santé et qu'elle a des vertus curatives à combattre les maladies. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. L'agriculture a bouleversé nos sociétés et évidemment nos modes alimentaires. Au fil du temps, sur le modèle agricole, les hommes cherchent à diversifier leur alimentation, mais en vain. Pour clôturer un petit peu cette petite introduction, quelqu'un, donc un paléo-anthropologue qui s'appelle Pascal Pic et qui intervient lors d'une émission radio. Donc voilà, tu peux envoyer Félix.
À partir de ce soir à Montréal, mercredi soir à Québec, le paléo-anthropologue Pascal Pic va donner 4 conférences sur l'humain. Pascal Pic est un auteur prolifique de livres de vulgarisation. Il est maître de conférences au laboratoire de paléo-anthropologie et préhistoire au Collège de France. Il envisage toujours l'évolution des hominidés sous plusieurs points de vue et ses conférences ici sont à l'avenant. À Montréal, il parlera ce soir à l'Université du Québec à Montréal des droits des animaux. Demain, toujours à Montréal, il suggère de voir autrement l'humain dans le cadre des grandes conférences à l'Université de Montréal. Mercredi, il sera ici à Québec au Musée de la Civilisation. Il va parler de la place de l'homme dans la nature. Et puis jeudi, vous pourrez le rencontrer à la librairie Olivieri à Montréal lors d'une séance de lecture, de signature en fait animée par Yannick Villedieu. Et nous, pourquoi est-ce qu'on voulait notre morceau de Pascal Pic à bien dans son assiette? Pour parler du contenu de l'assiette justement, de l'histoire de ce contenu, de l'histoire de notre évolution, parce que l'histoire de notre évolution, c'est aussi un peu l'histoire de notre alimentation. On joint donc Pascal Pic dans les studios de Radio-Canada à Montréal. Bonsoir, Monsieur Pic.
Bonsoir.
Quand on parle d'histoire avec vous, en fait, on parle toujours d'histoire très, très lointaine, de préhistoire lointaine. À partir de quelle étape dans notre évolution a-t-on des données ou des informations qui sont crédibles sur le régime alimentaire de nos lointains ancêtres?
Alors ça, on en a beaucoup parce qu'on a plusieurs moyens d'y accéder. D'abord les dents, puisque les dents se conservent très bien, étant minéralisées à 98%. Et nous disposons de dizaines et de dizaines d'études depuis des décennies qui nous disent par exemple chez les singes qui mangent des fruits, ben, les incisives sont plus grandes que celles que chez ceux qui mangent des feuilles, que ceux qui mangent des fruits ont des molaires plus carrés avec de l'émail plus épais et des reliefs plus arrondis, ce qui n'est pas le cas chez ceux qui mangent des feuilles. Et puis on a les canines, mais ça les canines on pense toujours carnivores, mais chez les singes c'est lié à nos types de nourriture, c'est-à-dire c'est lié à la compétition sexuelle.
Ah bon?
Oui, chez les singes, c'est comme ça. Donc, on a déjà pas mal d'éléments là-dessus. Derrière, on peut faire des études plus précises avec la microscopie électronique, avec différentes méthodes, puisque si vous mangez, par exemple, des tubercules, il y a toujours des petites particules abrasives qui laissent des marques particulières sur les facettes d'usure des dents. Si c'est plus des feuilles, vous avez des parties plus lustrées. Donc tout ça, ça permet de reconstituer pas mal d'éléments. En ce qui concerne ma spécialité en tant que chercheur, j'en profite parce que c'est pas souvent, ce sont les os, notamment les os de la mandibule, qui soutiennent vos dents. Et ben, si vous mangez des nourritures tendres, et bien vos os sont pas costauds. Si vous mangez des nourritures coriaces, bien les os sont plus costauds parce qu'ils doivent résister à toutes ces contraintes. Et puis, dernière méthode, c'est selon votre position dans la chaîne alimentaire, entre les végétaux, les végétariens et les carnivores, vous avez des traces d'éléments atomiques, chimiques, qu'on appelle des isotopes, qui vous donnent des indications pour savoir si vous êtes plus carnivore ou omnivore. Et donc à partir de là, on peut reconstituer pas mal de choses sur le régime alimentaire de nos ancêtres.
Et nos ancêtres, ils étaient plus carnivores ou omnivores ou frugivores?
Alors,
de très lointains ancêtres.
Oui, alors ça, on va en prendre quelques-uns. Si on est autour de 5, 6, 7 millions d'années, nous sommes autour de l'ancêtre commun aux hommes et aux chimpanzés. Les chimpanzés d'aujourd'hui étant nos frères d'évolution. Or, on s'aperçoit que les chimpanzés sont omnivores comme nous. Ils mangent de la viande, des fruits, des noix, etc. Et donc, nos ancêtres faisaient pareil. Ensuite, on est chez les Australopithèques, notamment Lucie. Vous savez,
oui.
Lucie, la grande mascotte. Alors, Lucie a un nom charmant, mais je peux vous dire qu'elle avait des mâchoires à faire cauchemardiser, si je peux me permettre, un dentiste. Donc leur devise, c'était un petit peu mâche ou crève. Pardonnez-moi pour ce mauvais jeu de mots préhistorique. Et donc eux, ils consommaient des nourritures assez coriaces, mais très diversifiées, des noix, des légumes, et notamment les parties souterraines des plantes, hein, qu'ils allaient chercher à l'aide de bâtons. Mais ça n'empêche pas qu'à l'occasion, ils mangeaient de la viande, qui est un petit plaisir au passage, mais qui n'est pas très important. Une accentuation importante, c'est avec les premiers hommes. Ça, c'est vers 2 millions d'années, toujours en Afrique, où là, on va faire entrer beaucoup plus de viande dans notre régime alimentaire. Et là, vous avez une autre discipline qui vient se joindre à nous, qui est l'archéologie. Puisque les ossements des animaux laissent des traces, les outils, on les retrouve, les outils qui laissent des traces sur les carcasses, on les retrouve, et on s'aperçoit qu'il y a une stratégie de plus en plus importante autour de, moins de la chasse d'ailleurs, que du charognage. Alors quand je dis charognard, ça nous effraie un petit peu.
Nos ancêtres étaient charognards.
Ouais, mais attendez, vous et moi, vous l'êtes. Hein, quand vous allez chercher de la viande chez votre boucher ou au supermarché, c'est pas vous qui avez tué la bête.
Quelqu'un
hein.
l'a tué avant nous, c'est vrai.
Exactement. Donc effectivement, alors eux, ils font comme nous d'ailleurs. Hein, ils surveillent la fraîcheur de la viande parce que nous, les singes, si je peux me permettre, nous ne sommes pas capables de détoxifier la nourriture qui est un peu avariée. Hein. Donc là, il y a des stratégies très complexes que l'on retrouve grâce à l'archéologie. Donc ils sont pas carnivores, ils sont omnivores, et ce qui va changer, c'est la proportion de viande. Et puis va arriver le vrai homme qu'on appelle l'Homo ergaster, qui lui est vraiment un vrai prédateur. Et comme vous savez, la viande est la seule nourriture qu'on retrouve sous toutes les latitudes et en toute saison. Et c'est grâce à cela que nous, les hommes, les hommes au sens strict, nous allons pouvoir nous affranchir du monde des arbres et commencer à entamer cette grande expansion depuis l'Afrique sur une partie de l'Asie et de l'Europe. Alors, ils ne sont pas que carnivores, mais la viande permet cela.
Est-ce que la viande a aussi influencé la taille de notre cerveau? J'ai déjà lu quelque part que ouais. le fait d'introduire la viande aurait permis un plus gros cerveau, mais c'est pas tellement la viande comme la cuisson.
Non, vous avez raison. Ouais. La viande crue ou cuite, comme vous le savez, hein, vous avez cette émission autour de l'assiette, viande crue ou viande cuite, ça se digère aussi bien, voilà, ça, il n'y a pas trop de soucis. Et le cerveau, enfin franchement, quand vous tombez dans les vapes, comme on dit, quand vous tombez un petit peu dans les pommes, on vous ranime pas avec un bout de steak, hein, c'est non. avec du sucre, et on est bien d'accord. Donc, en définitive, c'est des travaux que nous avions fait avec un collègue, Claude Marcel de Ladic, du Muséum à Paris. Il y a eu pas mal de discussions là-dessus, et la cuisson, en effet, joue un rôle important, parce que le feu commence à être utilisé depuis au moins 1 500 000 ans, et derrière cela, pensez, si vous consommez une patate crue, bon, il va falloir mastiquer quand même d'une manière sérieuse, et derrière, votre digestion va être très lourde, mais vous allez y arriver. Avec l'invention de la cuisson, une patate cuite, même s'il n'avait pas de patate à l'époque, hein, mais oui. En tout cas pour les tubercules, hein, les parties souterraines des plantes, c'est pour ça que je parle des patates, les patates cuites, évidemment, ça se digère beaucoup plus. Or, il faut savoir que tout de même, lorsqu'il faut engager la digestion, c'est ce qu'on appelle en français, mais vous connaissez l'expression, le petit coup de pompe que nous avons après le...
Oui, on s'endort après avoir déjeuner. Mangé.
Bah,
oui.
Bah, c'est comme une voiture, hein. Il faut envoyer de l'énergie, c'est de la batterie, pour faire démarrer le moteur, et ensuite on récupère de l'énergie. Grâce à la cuisson, d'un seul coup, tout ce qui est lié au glucose, etc., devient beaucoup plus disponible, et ceci va faire sauter un verrou physiologique, qui est celui donc du développement du cerveau. Car notre cerveau, chère madame, c'est un scandale écologique.
Ah bon?
Le cerveau consomme 20% ou 25% de notre métabolisme quotidien. C'est énorme. Et pourquoi les petits-enfants, par exemple, passent leur temps à manger, goûter, surgoûter, après-goûter? Ils n'arrêtent pas de bouffer, les gamins. Pour quelle raison? Parce que quand on est petit, notre cerveau consomme 40, 50, et encore quand on est plus jeune, 60% de l'énergie quotidienne. Donc, c'est une machine, le cerveau, qui a priorité, qui est extrêmement exigeante, et la cuisson a permis de faire sauter un verrou pour avoir un plus gros cerveau. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on a eu le plus gros cerveau, mais ça a permis de l'avoir.
Alors, et c'est la cuisson des légumes, finalement, qui a été plus
avantageuse. Exactement, et évidemment, c'est ça qui est important, c'est les légumineuses, c'est tout ce qui est tout cela. Imaginez que vous ayez qu'un plat avec des carottes. Alors ça, les carottes crues, ça va, les radis crus, ça va, mais tout le reste, les tubercules, etc., crus, les légumes crus, il y a que les fruits hein, qui sont vraiment extraordinairement disponibles pour cela. Eh bien, nous aurions, évidemment, quelques lourdeurs digestives, ça c'est sûr.
Bon, on sait qu'on est omnivore, et plus les années et les millions d'années ont avancé, plus on a varié, plus on a diversifier nos sources d'alimentation. Pourtant, depuis deux générations, on dirait que c'est le mouvement contraire, parce que notre alimentation, par exemple, est beaucoup basée sur quatre céréales, le blé, le riz, le soya, le maïs.
Oui.
Est-ce qu'on est en train de changer? Est-ce qu'on est en train de vivre un autre processus de métamorphose par rapport à notre alimentation?
Métamorphose, non, mais on voit bien que nos sociétés modernes souffrent de maux à la fois. C'est le même problème d'ailleurs, mais qu'il n'y a pas les mêmes réponses. D'un côté les anorexies, de l'autre côté les obésités. Et en fait, c'est amorcé au néolithique, hein, avec l'invention des agricultures. Et on le voit bien, au fil des millénaires, la diversité des ressources alimentaires décroît considérablement. Tout ce qui est lié à la collecte, etc., va décroître. Et surtout, et là, ça va coûter malheureusement assez cher aux femmes, malheureusement, parce qu'on va... les femmes vont être évidemment impliquées de plus en plus dans le meulage, la conservation, la cuisine, etc. des aliments. Donc il va y avoir un coût social énorme dont on n'est pas encore sorti, comme vous le savez, en ce qui concerne le partage des tâches ménagères et de la cuisine. Et il va y avoir une restriction. Et c'est de là que vont émerger les famines. Ça, c'est assez peu connu ce que je vais vous dire, peut-être que vous le connaissez, mais à partir du néolithique, notre taille corporelle et la taille de notre cerveau va diminuer, parce que nous allons avoir des contraintes de plus en plus fortes sur notre alimentation, de moins en moins diversifiées, et donc on va avoir des maladies génétiques qui vont être sélectionnées malheureusement, comme le favisme, l'intolérance auprès des fèves. Aujourd'hui, c'est les allergies, comme vous le savez, autour des cacahuètes, etc. Et donc, les restrictions des choix alimentaires vont favoriser malheureusement la sélection d'allergies. Et ce n'est que depuis la Seconde Guerre mondiale pour les pays industrialisés qu'on a retrouvé la taille de nos ancêtres comme Cro-Magnon, par exemple, mais pas le cerveau. Donc on a un cerveau plus petit que nos ancêtres d'il y a 10 000 ans. Donc vous voyez, la nourriture, c'est ce qu'on appelle chez nous dans l'évolution la co-évolution. On en a parlé avec le feu, c'est-à-dire comment nos inventions culturelles, nos choix alimentaires peuvent avoir des effets rétroactifs sur l'évolution de notre morphologie et aussi de nos capacités cognitives.
Et en terminant, un mot sur nos choix alimentaires. Vous allez parler des droits des animaux dans l'une de vos conférences, Pascal Pic. Est-ce qu'on met un peu de philo dans nos choix alimentaires, dans nos assiettes maintenant?
Ben, on va en avoir besoin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est retrouver du bien-être. Attendez, franchement, tout le monde fait ses courses dans des grandes surfaces. Tout ce qui a été fait depuis 30 ans, madame, vous le savez bien, on peut acheter ou des légumes, ou des fruits, ou de la viande, ou du poisson. On ne sait plus dans les barquettes, etc., quel était l'animal qu'il y avait derrière. Donc on a complètement réifié, comme on dit en philosophie, l'animal. Et il va falloir qu'on repense, effectivement, en termes d'expérimentation animale, en termes d'alimentation, d'accepter que nous mangeons des animaux, si on le fait, qui sont sensibles, qui souffrent, il faut du bien-être, etc. Ça a été raillé par beaucoup de philosophes, mais aujourd'hui, il faut retrouver de l'empathie, au vrai sens du terme, par rapport à notre assiette, ce qui ne veut pas dire que, de mon point de vue, je mange de la viande, mais c'est en manger moins, en manger mieux, avec des animaux dont, pour lesquels on a une traçabilité, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont mieux vécus, etc., bien entretenus. Il faut retrouver cette notion d'empathie, et donc, à partir de là, on mangera mieux, on sera mieux dans notre rapport à la nature, et on aura aussi une meilleure santé. Et puis surtout, nous sommes, faut pas l'oublier, nous sommes des mangeurs sociaux. Hein, nous mangeons, ce qui est important, c'est le goût des autres, c'est manger avec les autres. Et à partir de là, tout va beaucoup mieux.
Merci Pascal Pic, et pour les gens qui veulent en savoir plus, parce qu'on a fait quand même en quelques minutes plusieurs millions d'années, plusieurs sujets, ce soir à Montréal, mercredi soir à Québec, des conférences à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Montréal, au Musée de la Civilisation, à la librairie Olivieri, si tous ces sujets vous intéressent. Merci Pascal Pic.
Je vous remercie.
Au revoir.
Donc voilà, un petit extrait d'émission passée sur Radio-Canada, ça s'appelait Autour de l'assiette, cette émission régulière. Donc voilà, c'était une première amorce de sujet autour de l'alimentation. Enfin, là, ça, c'est une continuité un peu des missions qu'on a déjà eues précédemment. Bon, on voit là l'intérêt de la diversification de notre alimentation, à la fois pour une et puis l'impact à la fois sur la santé. Ça rejoint un peu l'émission précédente.
Sur l'environnement également.
Sur l'environnement extérieur à l'homme, sur la santé physique, intellectuelle et spirituelle, moi j'avais envie de dire aussi.
Oui, surtout pas oublier, enfin on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que la spiritualité a sa part, parce que il y a beaucoup de grands maîtres dans le monde qui ne jurent que par la pratique évidemment de leur discipline, mais aussi une très bonne alimentation.
Et d'avoir une nourriture saine,
oui,
aussi,
oui,
qui a pas
bien
été...
Sûr,
moi, ça me semble intéressant.
Oui,
j'avais lu aussi des bouquins sur les bouddhistes, par exemple. Ils sont pas mal sur cette notion aussi de la production, comment a été produit l'alimentation, dans quelles conditions, et que ce qu'on ingère dans le corps, et bien on ingère aussi la manière dont c'est fabriqué, quoi.
Le prana, l'énergie. C'est voilà, donc nous on n'est pas habitué à ces mots, etc., mais en Orient, en Asie, le prana est quelque chose d'extrêmement important. C'est l'énergie. Nous on connaît les calories que contient une tomate, un chou, etc., mais il semblerait que le prana évolue suivant que le chou soit exposé à la vue de tout le monde, que le chou soit le légume ou le fruit à une énergie, oui, interne, à une énergie qui nous restitue.
Bon, l'alimentation, un sujet dont on reparlera. Là, on a surtout parlé de l'alimentation européenne, hein, avec les Romains, les Grecs, le Moyen-Âge. Tout ça, c'était pour l'Europe. Hein. Dans d'autres pays, l'évolution était différente et les régimes alimentaires sont différents. Mais merci beaucoup, hein, Christophe, pour ce sujet. C'était pas un exercice facile, hein, de parler comme ça. On clôture ce sujet et puis on clôture aussi cette émission.
L'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local.
Interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.